soir.
Province des lois là-bas, les affrontements lundi dernier dans la localité des Kalembe entre les militaires et les présumés miliciens Kamuina Nsapu ont causé la mort de 16 personnes parmi les assaillants. Depuis des semaines, ces miliciens en provenance de la province voisine du Kasaï ont attaqué plusieurs villages de cette partie du Lualaba où ils tuent des maisons d'habitation, des hôpitaux, des écoles et des paroisses. Quelle analyse faire de l'expansion de cette milice? C'est la question de ce débat et nous en parlons avec Joseph Kongolo, il est analyste politique. Bonsoir Monsieur Joseph Kongolo.
Bonsoir.
Dismas Kitenge, président du groupe Lotus basé à Kisangani et vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. Bonsoir Dismas Kitenge. Et lui va nous rejoindre, c'est Israël Moutala, il est analyste politique et économique. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Incursion des miliciens Kamuina Nsapu dans la nuit de dimanche à lundi au village Kalamba, Kalamba, territoire de Kapanga, dans la province de Lualaba. C'est à quelques kilomètres de la frontière avec le Kasaï central. D'après les sources locales, des affrontements ont opposé ces miliciens aux militaires FRDC. Bilan, 16 miliciens tués. D'après les superviseurs de la Linapedo à Kapanga, en Espagne, ces miliciens ont attaqué différents villages frontaliers avec les provinces du Kasaï et ont semé la désolation. Paul Munanga nous en parle.
D'après la Linapedo et le grand chef Mwantiav, des miliciens Kamuina Nsapu sont arrivés en file indienne et en silence. Ils ont attaqué le village Kalamba dans la nuit de ce dimanche. Ils portaient des bandelettes rouges à la tête, des peaux d'animaux, des amulettes sur les corps, des couteaux, des machettes et des armes en bois. Ils se sont affrontés aux miliciens et 16 d'entre eux ont été tués. Quelques blessés et des arrestations sont également enregistrées. Les autres ont pris la fuite. Pas de victimes du côté des civils ou des FRDC. Information confirmée par le grand chef Mwantiav. Il salue la bravoure de la population qui s'est décidée de faire face à ces assaillants.
Nous essayons aussi de mettre la population dans ce mouvement. Comme ils ont vu que la Kamuina Nsapu n'avait que des machettes, mais eux aussi se sont armés en machettes. D'ailleurs, je dois vous dire que parmi les deux personnes arrêtées à Kalamba, une a été arrêtée par la population elle-même. Donc vous voyez ici, c'est l'Empire Lunda, nous résistons très sérieusement.
Signalons que depuis deux semaines, les miliciens Kamuina Nsapu en provenance du Kasaï ont attaqué plusieurs villages. C'est notamment Kambamb, Mutomba Chibang, Kalamb, Kalengman et Kanyinchin. Ils pillent et brûlent des maisons d'habitation, des hôpitaux et des paroisses. Ils enlèvent aussi des personnes. Lubumbashi, Pone Munanga, Radio Okapi.
Merci Pone Munanga. Plusieurs morts sont signalés dans les territoires de Luisa au Kasaï central. Des corps et autres restes humains ont été découverts dans plusieurs localités de ces territoires en l'espace de deux mois. C'est en tout cas ce qu'affirme le secrétaire général de l'Union des libéraux démocrates chrétiens et communicateur de la majorité présidentielle. Selon Maître Guillaume Mandiolo, des témoignages recueillis sur place attribuent ces exactions au présumé milicien Kamuina Nsapu. Il en appelle au gouvernement pour venir en aide à la population dont la situation humanitaire est plus que précaire. Maître Mandiolo, qui est aussi notable de Luisa, est au micro d'Alain Irunga.
Au niveau du groupement des Muzodi, il y a eu plus ou moins entre 26 et 30 morts déplorés du fait de ces milices. Et on découvre malheureusement ce matin que les cochons sortent avec des crânes et des morceaux d'os, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont déjà été enterrés dans des fosses communes par ces mêmes miliciens-là, à l'extérieur même de l'espace où les gens vivent, donc dans la brousse. On déplore un certain nombre de morts au niveau des Kavueta. Ces miliciens pillent, tuent et violent et imposent aux gens de pouvoir se soumettre à leur autorité. Après Kavueta, ils sont montés jusqu'à Lumpungu. Et à Lumpungu, ils ont encore massacré l'église catholique du groupement des Lumpungu, complètement démolie. Et que les couvents des prêtres démolis, les dispensaires démolis, les écoles. De manière approximative, il faut encore attendre que les enquêtes soient approfondies. On peut parler de plus ou moins 200 morts au total sur l'espace Luisa, mais plus particulièrement dans les secteurs des Kabelekesé, partant des Muzodi, des Lumpungu, des Kavueta, des Luambo même centre, des Kalamambuji et sur la route allant vers Kalombo.
Notez que ces informations et ces chiffres n'ont pas encore été confirmés par des sources officielles de la province du Kasaï. Dismas Kitenge, bonsoir. Dismas Kitenge. Voilà, apparemment il n'est pas là. Joseph Kongolo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes analyste politique. Comment vous réagissez face à l'ampleur, n'est-ce pas, que prend ces phénomènes Kamuyansa?
Bien, merci beaucoup, Monsieur Guimaté, pour m'avoir associé à ce débat ce soir. Je voudrais d'entrée du jeu, d'abord, poser le décor. Je voudrais que ceux qui nous écoutent ne s'écartent pas des préalables. Le premier préalable, c'est que nous sommes dans un contexte politique clair que je voudrais définir aujourd'hui. C'est que nous sommes dans un contexte d'illégitimité des institutions, d'illégitimité d'animateurs dans ce qu'on appelle en politique le vacuum du pouvoir, c'est-à-dire un vide du pouvoir. Et c'est dans ce contexte, je décris toujours ce contexte dans lequel on parle de Kamuyansapu. Je parle de ce contexte où il y a refus de l'alternance, là où le régime hégémonique qui résiste au pouvoir, en dehors, n'est-ce pas, du délai constitutionnel, c'est-à-dire en dehors du mandat officiel, c'est ce régime qui monte autant de subterfuges pour rester le plus longtemps au pouvoir, en dehors des mécanismes démocratiques. C'est dans ce contexte-là que nous sommes. Nous ne voulons pas nous écarter de ce contexte, parce que c'est une guerre qui est née dans ce contexte et qui évolue dans ce contexte.
Et le lien entre ces phénomènes, n'est-ce pas, qui prend de l'ampleur, et ces contextes politiques que vous venez d'évoquer?
Justement, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de séparer les deux. Kamuyansapu est le contexte d'illégitimité, et il n'y a pas moyen de les séparer aujourd'hui. Je voudrais dire...
On serait dans un autre contexte, les phénomènes Kamuyansapu ne seraient pas nés.
Ne seraient pas nés. Ça c'est moi et je peux le défendre, ok? Alors, je voudrais dire tout simplement que c'est une guerre qui est née de cette situation-là. Ça veut dire autrement que c'est une guerre qui a été, au fait, la guerre-là, c'est le prolongement du combat politique sur le terrain, qui a produit cette guerre. Donc, c'est le produit d'un combat politique entre un régime qui refuse de laisser le pouvoir et d'autres forces qui veulent absolument récupérer le pouvoir. Et c'est dans ce choc qu'est né Kamuyansapu. Il n'y a pas d'autres explications possibles. Le prétexte Kamuyansapu aujourd'hui a été récupéré et a été grossi. Je viens d'entendre M. Bandiolo, vous venez de parler. Vous avez senti vous-même le grossissement des faits. On voudrait charger l'ensemble des exactions sur ce Kamuyansapu, cette nébuleuse qu'on ne reconnaît pas, qu'on ne sait pas trouver, qu'on ne sait pas palper, effectivement. Heureusement que vous avez dit qu'il n'y a pas encore de confirmation. Par, n'est-ce pas, les sources locales.
Et l'aspect n'est-ce pas, implication ou interférence des pouvoirs politiques dans les affaires coutumières plutôt, cet aspect-là ne peut pas expliquer l'ampleur que prend ces phénomènes.
Ce phénomène a existé depuis Mobutu. Suivez l'histoire, n'est-ce pas, du pouvoir coutumier, vous allez comprendre, ce phénomène a toujours existé. Et on vit avec ce phénomène depuis longtemps. C'est un phénomène qui a toujours existé. Ne vous en faites pas, ça a toujours existé. Et M. Kabila l'a trouvé, ce régime l'a trouvé, et ce phénomène a toujours continué, il a toujours existé. Alors, le phénomène Kamuyansapu, je l'ai dit et je l'ai confirmé encore, je le redis, c'est le fruit tout simplement du choc entre ceux qui veulent rester au pouvoir au-delà, n'est-ce pas, de la loi et ceux qui veulent absolument récupérer le pouvoir. C'est ce choc-là, effectivement, qui a donné naissance à la guerre de Kamuyansapu. Cette guerre est parti de loin pour venir là, pour deux raisons. La première raison, elle est politique. Ça veut dire tout simplement que le président de la République a compris que l'une des forces qui résiste, n'est-ce pas, à la continuation de son pouvoir au-delà des règles, au-delà de la Constitution, c'est l'UDPS et sa base. Il faut percer dans cette base en important une guerre. De cette manière-là, le président... Je parle du régime, hein, je ne voudrais pas personnaliser, je parle du régime. On voudrait tout simplement percer cette base qui est compacte, l'opposer.
Et donc, si on vous comprend très bien, c'est le régime qui a conçu et entretient ces phénomènes.
C'est provoqué et entretenu pour un objectif politique précis. Il faut détruire celui qui résiste à la révision de la Constitution. Il y a déjà des polos sur lesquels on demande aux gens pour la paix, la sécurité et tout ça, il faut réviser la Constitution. Nous comprenons, ça ne vient pas du néant. Donc, il y a une force qui résiste, n'est-ce pas, à la stratégie principale, n'est-ce pas, du régime en place. C'est cette force qu'il faut casser, affaiblir en les divisant. C'est comme ça que nos amis originaires qui ont été dans le petit cercle, originaires par exemple de Kamounia, ont commencé à chasser par exemple les Luluwa et les Balouba qui habitent Kamounia.
Et en quoi le fait de mater, si réellement on arrive à mater les phénomènes Kamounia-Sap aujourd'hui, en quoi cela pourrait fragiliser ou, n'est-ce pas, faire disparaître l'UDPS?
Je voudrais d'abord vous dire, dans la cartographie politique de notre pays, il y a un seul parti politique qui a deux provinces comme base naturelle. Vous n'en trouverez pas ailleurs. Et après, l'UDPS, je vois un peu l'UNC avec le Nord et le Sud Kivu, n'est-ce pas ? Au-delà de ça, vous ne trouverez pas un autre parti qui a une base telle, une telle base. Mais le caractère compact, la fidélité de cette base derrière l'UDPS est sans égal. Est sans égal aujourd'hui. Et aujourd'hui, la ramification, n'est-ce pas, de cette base dans d'autres provinces, n'est-ce pas, éloignées. Vous avez suivi le gouverneur du Katanga, Kazembe, quand il disait, au 19 décembre, il disait que ce sont les gens qui sont venus d'ailleurs, qui sont à la base des troubles, ainsi de suite, et tout ça. Tout ça exprime tout simplement ce caractère compact d'une base qui reste fidèle, et vraiment fidèle, derrière, n'est-ce pas, l'UDPS. N'est-ce pas? C'est ça. Il faut percer, il faut diviser ces gens. Il faut diviser. Regardez ce qu'on est en train de faire. Pendant qu'il y a la guerre dans le Kassai central, et au même moment, on joue à la primature avec les gens du Kassai oriental. Pour que demain on dise, eh ben, quand il y a eu guerre là-bas, à la tête du gouvernement, il y avait des gens du Kassai oriental, ils n'ont rien fait.
C'est la même manière. Le phénomène Kamouna-Sapu n'a pas existé depuis l'époque du maréchal, oui. Mais l'UDPS a toujours été là, n'est-ce pas?
Oui. Mais comment casser, effectivement, comment affaiblir à fond ce parti qui résiste aujourd'hui à toute la stratégie du gouvernement? Pour casser ces stratégies, il faut percer dans cette base. Et surtout avec la mort de Tshisekedi aujourd'hui, on sent que le terrain reste presque vide. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut foncer. Merci. Comment? Par toutes ces manœuvres subtiles, n'est-ce pas, qu'on amène de gauche à droite et tout ça.
Merci, Dismas Kitenge, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, je rappelle que vous êtes président du groupe Lotus et vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH. Et après l'espace kassaïen, les musiciens de Kamouna-Sapu atteignent les Lualaba. Et comment vous analysez cette expansion?
Et à mon avis, il y a cinq facteurs qui favorisent cette expansion du phénomène Kamouna-Sapu, puisqu'il reste un phénomène qu'il faut vraiment étudier, analyser, approfondir. Le premier élément, très rapidement, c'est la politisation du conflit du pouvoir coutumier au Kassai central. Donc, c'était au départ un conflit purement coutumier dû à un problème de succession entre deux prétendants au pouvoir coutumier et qui a été politisé d'abord par les autorités locales, ensuite par les autorités nationales et enfin par le prétendant eux-mêmes au conflit. Donc c'est une preuve vraiment d'une politisation à outrance. Deuxième élément, à mon avis, c'est la désinformation et la manipulation des acteurs directs et indirects de ce conflit-là. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est que la plupart des gens n'ont pas la vraie information. La vraie information sur l'origine et les prétentions de cette milice Kamouna-Sapu. Le pouvoir non plus ne fait pas un effort de mieux communiquer sur les problèmes, c'est-à-dire de présenter les problèmes d'une façon objective. Objective pour que la population et les acteurs internationaux puissent comprendre bien la nature de ces conflits-là. Troisième élément, à mon avis, c'est la militarisation du conflit. Le conflit qui est né d'un problème de succession au pouvoir coutumier qui a été politisé, dont on ne donne pas les vraies informations et qui est suffisamment manipulé par tous les acteurs, directs et indirects, est aussi militarisé. Qu'est-ce que j'entends par la militarisation du conflit? C'est le fait que le pouvoir a répondu par la force. Le pouvoir a répondu par la milice et la police, par l'armée, pour réprimer une revendication vraiment qui a commencé sur le plan, disons, d'un pouvoir coutumier et ensuite qui a pris l'allure sociale. Donc la réponse ne devrait pas être forcément à première vue d'ordre militaire ou policier. Donc la réponse devrait être d'ordre social, la négociation, d'ordre politique, la discussion. Bon, quatrième élément, c'est la socialisation. La socialisation du conflit. Donc, le conflit a l'allure maintenant d'être une affaire attribuée à une ethnie, un pouvoir ou un peuple qui ne veut pas des autres. Et du coup, l'allure du conflit, c'est que tous les gens du coin, central, commencent à s'approprier les conflits. Nous sommes victimes. Et puis, la police qui arrive, l'armée qui arrive, ne sait pas faire la différence. Tout ce qui parlerait une certaine langue serait d'une manière ou d'une autre complice à cette milice. Donc, et les autochtones le fait que le chef avait été tué et qu'on n'aurait jamais rendu le corps de ce chef, et en tant que tel, ils doivent s'approprier cette cause-là. Et enfin, le cinquième élément, à mon avis, c'est l'impunité. L'impunité généralisée, ça veut dire les personnes qui sont responsables des graves exactions de droits humains qui se commettent là, ne sont pas punis, ne sont pas jugés. Les conflits a mis du temps, des mois maintenant, et on ne voit pas non plus les personnes, les vrais auteurs qui sont traduits devant la justice et qui sont sanctionnés. Et l'affaire donc paraît être donc voilà un peu floue et puis habillée d'une autre façon. Et les auteurs courent. Donc les vrais auteurs qui sont à la base, s'ils ne sont pas identifiés, mais au moins ils ne sont pas poursuivis. Voilà ce sentiment-là. Et on sait dans notre pays que les gens recourent parfois à la violence, aux conflits armés pour accéder au pouvoir.
Oui, Dismas, donc vous expliquez ces phénomènes par cinq facteurs, notamment la politisation du conflit du pouvoir continué, la désinformation des acteurs directs et indirects de ces conflits. Et ces mouvements, on se rend compte qu'il prend de plus en plus des allures d'une rébellion. Est-ce qu'à ce stade, on peut se permettre de parler d'une véritable rébellion, même s'il n'y a pas encore des porte-étendards, il n'y a pas encore des porte-paroles?
Moi, je pense que c'est encore tout au début, mais l'ampleur, l'expansion du problème qui a touché tout l'espace kassaïen et qui veut atteindre maintenant l'espace katangais, et qui donc ça donne l'allure qu'il y a des acteurs qui sont derrière et les revendications qui sont présentées d'une manière diffuse par les éléments de la milice Kamuina Sampou sont d'ordre aussi politique. Mais ce n'est pas encore un mouvement bien organisé, avec des revendications claires. Bon, maintenant, c'est dire tout simplement qu'il réclame, mais il réclame que la lumière soit faite sur les circonstances de l'assassinat du chef Kamuina Sampou. Mais derrière ça, on sait qu'il peut y avoir des revendications politiques. Donc, il y a une main invisible qui manipule. Lorsque j'ai parlé de la désinformation, il y avait aussi la manipulation des acteurs directs et indirects. Donc, pour l'instant, c'est déjà une milice. C'est clair, puisque la milice utilise le moyen pour qualifier quelque chose de milice. On se base plus sur les moyens utilisés. Les moyens utilisés ici sont les armes que la milice déjà utilise.
Merci,
et
Dismas.
De l'autre côté, nous sommes en présence d'un conflit armé.
Merci,
donc
Dismas.
Il y a déjà l'armée qui essaie de réprimer, mais avec des revendications à la fois politiques et à la fois sociales. Il n'est pas impossible demain ou après-demain d'apprendre que ça a pris l'allure d'une rébellion.
Merci, Dismas, on a compris. Israël Moutala, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et analyste politique et économique. Le phénomène Kamuina Sampou s'étend au-delà de l'espace kassaïen. Comment vous comprenez cela?
Bon, moi je comprends ça par le fait que il n'y a pas l'autorité de l'État est suffisamment faible. L'État, dans ce qu'il a en tant qu'attribut, n'est que de nom sur l'immense territoire qui constitue la RDC. Donc quand on parle de l'autorité de l'État, qu'il faut respecter l'autorité de l'État, ou bien qu'il faut rétablir l'autorité de l'État, il faut d'abord comprendre que l'autorité de l'État, c'est notamment la présence d'une police, la présence de services publics tels que les écoles publiques, les hôpitaux publics, les routes d'intérêt national bâties par les... Il faut une présence de l'État. l'État, c'est cet instrument au bien du service commun, au bien de l'intérêt collectif. Et cette présence doit être manifeste, présente. Mais souvent, alors, c'est l'autorité, la présence de l'État, elle est faible. Elle est concentrée dans les grandes villes. Et en termes, en milieu rural, elle est quasiment inexistante, cette autorité de l'État. Et donc, et maintenant, quand elle se manifeste dans les milieux ruraux, elle est perçue comme une forme d'oppression. Et donc, il est plus facile justement de contester cette autorité de l'État dans les milieux reculés.
La présence de l'État doit être manifeste, comme vous le dites. Et donc, vous partagez l'avis de ces observateurs qui estiment que ce n'est pas les miliciens comme Nansa Pou qui sont redoutables, c'est plutôt l'État qui est faible.
Oui, l'État est faible, mais ça veut dire que les miliciens, ils sont aussi redoutables. Ça veut dire que il y a deux réalités. Ça veut dire que comment est-ce qu'une milice, un conflit localisé, coutumier, peut se propager aussi rapidement? Ça veut dire qu'ils ont une capacité de persuasion. Ils ont une capacité à influencer le plus grand nombre. Comment est-ce que la parole de l'État n'est pas écoutée? Comment est-ce que la version de l'État est contestée? Alors que là, vous êtes dans un système d'endoctrinement, vous êtes dans un système de propagande, mais qui prend comme un feu de paille, qui va vite, qui se propage rapidement. Donc nous sommes là dans un paradigme très complexe, mais en tous les cas, c'est l'autorité de l'État qui est très faible. Parce que s'il y avait une présence de l'État assez forte en termes de scolarisation, en termes d'éducation, les gens seront moins manipulables, les gens seront moins influençables, les gens seront moins endoctrinables. Donc vous avez des jeunes gens de 11 ans, de 8 ans, de 9 ans, de 12 ans à qui l'on dit que si vous mettez cette potion magique, si vous l'enduisez et si vous répétez une formule magique, vous serez invulnérable au bal. Et ce message passe. Pourquoi? Parce que pour eux, l'État est perçu d'abord comme une forme d'oppression. Et donc, par rapport à ça, fort de ça, ils sont facilement... comment on peut facilement utiliser cette jeunesse contre l'État?
Voilà, vous évoquez la faiblesse de l'État. Est-ce que l'attitude de l'État congolais ne peut-elle pas s'analyser par rapport au contexte du moment? Joseph Kongolo l'a relevé ici. Et chaque fois qu'il y a des opérations contre les miliciens comme une Instapou, l'opinion internationale dénonce l'usage excessif de la force. L'État congolais ne serait-il pas embarrassé quant à l'attitude, n'est-ce pas, à adopter face à cette menace?
Absolument, c'est très compliqué. Vous avez vu le modus operandi de miliciens. Ils n'ont pas, à proprement parler, des armes à feu. S'ils ont quelques armes à feu, c'est des fusils de chasse. Et donc, dans leurs attaques, ils utilisent le plus souvent des armes blanches. Mais donc, machette, couteau et quelques objets tranchants. Bref, ils utilisent souvent, la plupart du temps, des armes blanches. Et l'État, par rapport à ça, a des armes à feu. Et donc, il se pose un problème de la disproportion. C'est vrai que l'autorité de l'État est menacée. C'est vrai que les attaques des miliciens occasionnent des pertes en vies humaines, des dégâts. Mais l'État est en responsabilité et il doit proportionner justement sa riposte. Donc la riposte ne doit pas être excessive, elle doit être adaptée par rapport au péril imminent. Et donc, moi je pense que quand j'ai vu que jusque-là, j'ai vu les vidéos qui ont circulé, que j'ai vu, effectivement, c'était quand même assez difficilement soutenable qu'il y avait proportionnalité dans la riposte de l'État. Il y a à première vue vraiment disproportion, surtout que les personnes qu'on a vues mourir sur les balles, c'est des enfants.
Oui, le gouvernement, par la bouche du vice-ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, a pris des mesures en vue d'un règlement pacifique de ces problèmes, notamment la restitution de la dépouille mortelle du chef communiste pour sa famille. Mais la promesse n'est toujours pas réalisée. Est-ce que cela ne peut pas expliquer cette escalade à laquelle on assiste?
Bon, mais je pense que le vice-premier ministre est retourné au Kananga pour concrétiser sa promesse. Mais moi, je pense que d'abord que les conditions de la paix passent par d'abord un mea culpa public officiel de l'État. Que l'État d'abord reconnaisse sa faute, que toutes ces années, pour des raisons politiciennes, l'État a instrumentalisé le pouvoir coutumier. Il intronise chaque ministre de l'Intérieur, chaque gouverneur, quelqu'un qui a une parcelle d'autorité, intronise le chef coutumier qui lui plaît ou c'est lui qui lui promet quelques voix. Et donc c'est cette instrumentalisation du pouvoir coutumier qui amène cette catastrophe.
Et
donc,
même si l'État aujourd'hui faisait son mea culpa et qu'il restituait le corps des Kamuina Nsapu pour sa famille, vous pensez que cela pourrait suffire pour arrêter cette machine infernale? Est-ce que cela pourrait dissuader ces populations qui se radicalisent tous les jours?
C'est un premier pas. Un premier pas, justement, qui procède du péché originel. Le péché originel, il vient de l'État qui a instrumentalisé un pouvoir coutumier et dont nous avons des conséquences que nous déplorons aujourd'hui. Mais ce mea culpa n'est pas suffisant. Joseph Kogolo a dit ici qu'il y avait des aspects politiques. Effectivement, sur un conflit coutumier, s'est greffé des revendications politiques. Et donc ces revendications politiques doivent être aussi rencontrées. Parce que aussitôt vidé l'aspect coutumier, c'est une affaire qui dépasse même maintenant la famille Kamuina Nsapu. Donc le ministre de l'Intérieur, Shadary, qui est là-bas, qui va rencontrer la famille régnante, Kamuina Nsapu, qui va restaurer leur pouvoir, qui va remettre le corps, ils vont faire des rites. Mais la question a déjà dépassé le cadre familial.
Joseph Kongolo, il y a une réflexion pour vous, elle vient des Boutembo Nord Kivu.
Josué Kakule Museke de Butembo au Nord Kivu. Le gouvernement doit apprendre à lire les signes des temps. Rien ne sert à faire voir aux gens que tout va bien alors que sur terrain les choses ne font que s'empirer. Les autorités semblent ne plus avoir le contrôle de la situation sécuritaire, socio-économique et même diplomatique. Et si elles sont débordées, je pense qu'il faut envisager la solution avec une autre classe politique.
Joseph Kongolo.
Bien, merci Monsieur José pour la question. Je crois que il a essayé un peu de me soutenir dans ma thèse tout à l'heure. Je disais que quand un État a perdu sa légitimité, il a perdu une force de terrain. Quand l'État a perdu, dans les situations actuelles, l'État n'a pas la maîtrise des moyens pour pouvoir s'imposer. Moutala vient de dire tout à l'heure que l'autorité de l'État est absente, c'est qu'il donne, n'est-ce pas, un champ libre, n'est-ce pas, à ce mouvement de se repentre assez rapidement. Je suis en train de dire que pourquoi l'autorité de l'État s'est affaiblie il y a longtemps, ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais pourquoi cette guerre est née seulement aujourd'hui? Je voudrais que qu'on ne s'éloigne pas de ce contexte parce que c'est une vérité. Tant que le régime en place a épuisé les deux mandats, la population, vous savez, ce sont des choses qui sont juridiques, mais aussi qui portent un aspect spirituel. C'est comme quelqu'un qui sait qu'il est fautif et qui veut faire une guerre, il la perd facilement. Donc, la population a été préparée pour ces deux mandats-là, et il n'a pas reçu quelque chose de grand. Et la grande radicalité, c'est-à-dire la grande opposition, ce ne sont pas des partis politiques aujourd'hui, ce sont des populations oubliées, ce sont des populations qui manquent les moyens, n'est-ce pas, de survie.
En fait, la précarité.
La précarité. Et cette précarité a trouvé un moyen d'expression dans le phénomène Kamuina Nsapu. Si chez Kamuina Nsapu, c'était juste un conflit tribal, un conflit ethnique ou un conflit coutumier, mais ailleurs, ça a pris d'autres significations. Kamuina Nsapu n'est plus... Ce ne sont pas les mêmes gens qui sont allés à Sandoa. Vous savez, pour arriver à Sandoa, là où se trouvent pratiquement les conflits, c'est qu'il faut passer par Mweneditu. Quand vous passez par Mweneditu, vous passez Mbaye Musenga, vous passez Wikong, c'est alors que vous pénétrez dans le territoire de Katanga, de Kapanga, par la province, n'est-ce pas, du Kasaï oriental, pas du Kasaï central.
Et c'est cette façon, cette manière, n'est-ce pas, de s'étendre, montre qu'il y a une certaine intelligence derrière ces phénomènes et fait croire qu'il pourrait y avoir un peu partout en RDC des cellules dormantes de Kamuina Nsapu.
Effectivement, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que ce sont toutes ces populations qui se sont senties oubliées du pouvoir, qui trouvent dans Kamwina Nsapu une revendication majeure. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut le dire que le pouvoir aujourd'hui n'est pas, disons, innocent de ce qui arrive. Quand je parle du contexte, je voudrais tout simplement dire que tant qu'il y aura élection au mois de décembre, le pouvoir n'est pas d'accord avec ça. Il faut freiner les élections, il faut globaliser la violence, maîtriser cette violence de manière à atteindre des objectifs
politiques. Et donc, Joseph Songolo veut dire aujourd'hui, ce soir, que les phénomènes comme Kamwina Nsapu, c'est le fait du régime.
C'est le fait du régime, j'insiste et je peux le prouver.
Merci, Dismas Kitenge. Il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir, elle vient de Kinshasa.
L'État congolais pouvait stopper cette hémorragie des massacres, tueries et déplacements de la population en identifiant les vraies revendications de la milice avant de procéder donc à l'attaque avec et à la chasse des miliciens pour les anéantir. Du fait qu'on vise la force pour vaincre l'ennemi, on essaiera d'enregistrer les morts dans le décent et la paix s'éloignera loin de nous du jour au jour. Le chemin du dialogue est la seule voie, la meilleure, qu'on devrait suivre pour épargner les vies humaines qui en payent aujourd'hui les pots cassés et l'implication brutale des forces de l'ordre envoyées dans le coin du pays. Du fait que le gouvernement minimise la montée en puissance de cette force de Kamwina Nsapu, même s'il parvient à dénicher leur complot, qu'il n'oublie pas que cette milice indispose la sécurité nationale et la paix qu'on a toujours recherchée sans succès des années et des années.
Dismas Kitenge.
Merci, oui, Limaté. Donc, j'ai suivi l'auditeur de tout à l'heure. Je partage en très grande partie sa réflexion et également les moyens qu'il préconise pour résoudre ces conflits-là. À ce qui me concerne, pour aussi donner encore un peu plus d'éléments, je pense que ce conflit-là, qui est un conflit d'ordre social et qui a été politisé et qui est réprimé, durement, pour y mettre fin, il faudrait donner la vraie information. La vraie information sur l'origine de ces conflits, l'information sur les revendications de cette milice, deuxièmement, renoncer à l'utilisation de la force. Un conflit qui marque en réalité, qui symbolise la crise de conscience entre les gouvernés et les gouvernants, ne peut trouver une solution qu'avec le dialogue, l'information, et aussi en solutionnant les vrais problèmes qui sont présentés par cette milice. Comme disait tout à l'heure un des intervenants, je pense qu'il faut vraiment diagnostiquer le problème, et le problème est plus simple. C'est une crise, hein, une crise de conscience généralisée au Congo, entre les gouvernants et les gouvernés, qui créent une rupture. Et cette rupture-là, il faut, pour la rétablir, je pense qu'il faut être à l'écoute de ce que la population veut et que l'autorité ait le moyen d'y répondre, même pas en totalité. Mais on ne peut pas régler un problème d'ordre social, puisque le phénomène Kamwina Nsapu dans la région du Kasaï, c'est devenu un problème non seulement politique, mais aussi un problème social. Alors, en tant qu'un problème social, on ne peut pas le résoudre par les moyens militaires. Mais au contraire, on peut le résoudre que par les dialogues, mais un dialogue franc, vraiment franc, et un dialogue qui permette d'identifier les vraies causes et de résoudre ces problèmes-là. Et enfin, on ne peut pas non plus souligner, on ne peut pas non plus négliger l'aspect de violation des droits humains. Et que, en établissant plutôt la paix, dans un premier temps, dans un deuxième temps, il faut trouver les moyens de résoudre ces problèmes par la lutte contre l'impunité. Donc, ces crimes graves qui se commettent dans les cadres de ces conflits, ne peuvent pas rester impunis. Donc, il faut qu'on les résolve aussi. Et puisque les victimes de tous côtés, il n'y a pas que les victimes de milices, mais aussi les victimes des FARDC, qui attendent de justice et réparation.
Merci, Israël Moutala. Il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Kasongo.
Je m'appelle Moukili Saïfi, depuis Kasongo, Maniema. Les revendications de Kamwina Nsapu, il est en train de revendiquer le corps de leur chef ou bien c'est un agenda caché fait par les politiciens. Parce que si on se souvient, jadis, ça a commencé à l'est par les révoltes de Benjamin. Après les révoltes de Benjamin, on a écouté la guerre de libération de l'AFDEL, ce qui se passe au niveau de Kassai. Ça ne viendra pas comme ce qui s'est passé à l'est pour les révoltes de Benyamulenge.
Israël Moutala.
Bon, pour moi, je pense que c'est un scénario qu'il ne faut pas écarter, mais c'est un scénario qu'il faut absolument souhaiter à ce que, qu'il ne puisse pas se réaliser. La guerre.
Mais lorsque vous voyez comment ils avancent, ils ont été signalés quelques semaines avant vers la frontière entre les Kassai et l'ex-Bandundu. Aujourd'hui, ils sont au niveau de l'ex-Katanga. Est-ce que ce n'est pas une façon de prendre antenne et d'encercler de façon subtile la ville de Kinshasa?
Non. On est encore très loin d'une rébellion structurée, tout ça. On est encore loin. On est en face des groupuscules. D'ailleurs, il n'y a même pas...
C'est ce qu'on disait de l'AFDEL quand ce mouvement avait commencé, comme l'a relevé cet auditeur.
Non. Regardez, ça veut dire l'AFDEL, c'était des gens bien armés, avec un commandement. Il était structuré. Ici, quand vous regardez d'abord leurs revendications, il y a des revendications, une partie des revendications politiques. Oh non, nous voulons que tel soit nommé à la primature, nous ne voulons pas de Sami Badibanga et tout ça. Oh, voilà. Il y avait d'autres qui étaient restés strictement sur des revendications d'ordre coutumier en demandant ce que tout ce qu'il y a eu comme profanation de leur chef soit réparé et tout ça. Et il n'y a pas un commandement. Il n'y a pas un commandement structuré. Ils répondent de qui? De personne. Donc, il y a des groupuscules à gauche et à droite. Il y a même quand ils viennent, quand ils prennent une ville...
Est-ce que ce n'est pas ce qui fait leur force?
Non, mais c'est ça le problème.
On est en face d'une sorte de nébuleuse, quoi.
Non, ça veut dire que même là, même quand ils investissent une localité, ils n'ont pas les moyens de la tenir. Parce que aussitôt que les forces régulières l'investissent, voilà, il y a des affrontements et puis ils n'ont pas les moyens humains, les moyens logistiques, les moyens militaires de contrôler tout cet espace. Non.
Parce que comment vous réagissez à l'analyse des Joseph Kongolo qui estiment que c'est un phénomène qui est entretenu par le régime? Est-ce que le régime peut accepter de se faire harakiri, hein? Parce qu'il faut reconnaître que à certains points de vue, ces phénomènes-là, c'est cool.
Non, pour moi, je sais que Joseph était un très bon analyste, un excellent analyste. Je sais aussi que le pouvoir est à certains égards cynique, mais il ne pouvait pas pousser le cynisme jusqu'à ce point-là. Non, pour moi, ce phénomène, justement, à l'origine, les erreurs du gouvernement, les erreurs de certains membres du gouvernement, du régime Kabila, à vouloir instrumentaliser le pouvoir coutumier, et il y a eu, et ça a dégénéré. Ça a dégénéré pourquoi? Parce que l'espace kassaïen en général, comme on l'a dit ici, se sent délaissé. Et donc je peux rappeler que l'espace kassaïen en général, il y a une crise importante qui sévit là-bas, depuis l'effondrement de la MIBA en 2006-2007 par là. Donc il y avait une société qui structurait un peu tout cet espace, mais alors après ça, ils sont le Kassai oriental, le Kassai occidental, les deux Kassai sont l'ombre de les deux provinces d'elles-mêmes, et donc les plus braves de leurs fils émigrent dans d'autres provinces, donc c'est la misère la plus totale. Et donc devant un tel terreau, sur un tel terreau peut prospérer toutes sortes d'idéologies contre le pouvoir.
Et donc pour trouver une solution, il faut une approche holistique,
une approche globale, comme tu l'as dit, une approche holistique. On a toujours dit que la pauvreté nourrit le terrorisme, et ici vous avez des appétits politiciens qui ont manipulé un pouvoir coutumier, ça a dégénéré après, avec la révolte de Kamuina Nsapu, et boum, pouvoir la pauvreté, et c'est un ras-le-bol qui s'exprime à travers ce mouvement, et donc les solutions ne peuvent qu'être que politiques. Mais je ne pense pas, malgré tout le cynisme que je reconnais au régime actuel, qu'ils ont eux-mêmes fomenté cette crise. Cette crise, elle coûte beaucoup d'argent au pouvoir, elle affaiblit le régime, vous avez des militaires qui sont décapités, vous avez des procès, c'est de l'argent. Le régime est exsangue. Et donc, même pour aller dans cette guérilla là-bas, la contrer, tout ça mobilise beaucoup d'énergie pour un État déjà fragile et faible.
Oui, Joseph Kongolo, la solution c'est quoi? Faut-il nécessairement organiser les élections comme vous l'avez prôné?
Oui, je crois qu'il vient de le dire tout à l'heure que la solution est globale.
globale d'abord, c'est le respect des textes. Nous avons une population, quand elle est pauvre, elle est très politisée. Quand il y a la précarité dans une population, elle devient très, très politisée. Alors, la première des choses, c'est d'abord de résoudre globalement la crise qui sévient avec la démocratie du Congo. C'est en particulier l'alternance. Parce que tout le monde
sait... La crise politique.
Oui, c'est d'abord la crise politique qu'il faut résoudre. Alors, quand vous résolvez la crise politique, c'est-à-dire, vous changez la direction du pays, vous changez l'ensemble des animateurs, des structures, des différents organes du parti, du pays, en ce moment-là, ceux qui vont venir, ils auront une autre vision. Ils peuvent être entendus, ne fût-ce que par la parole, sans être sur le terrain. Cela est possible. Mais ce régime qui a fatigué tout le monde, qui a dépouillé tout le monde, qui a paupérisé la population et qui a rendu une qui a façonné une précarité extrême au sein de la population, elle ne sera plus entendue.
Alors nous sommes dans un processus politique qui évolue trop lentement avec beaucoup de difficultés et donc on ne peut pas espérer voir les bouts du tunnel d'ici peu.
De la volonté du régime, oui. Parce qu'aujourd'hui, le contexte qui démontre le refus de l'alternance, qui démontre la volonté de rester au pouvoir, même par des moyens cyniques, explique à fond et totalement et globalement la crise de Kamuinasapu.
Alors, en conclusion,
je crois qu'en conclusion, je voudrais que les gens reviennent à des meilleures dispositions d'esprit, en particulier le chef. Un chef, il doit avoir plusieurs visions de la chose. Il doit, là où il y a le désordre, là où il y a la mort, là où il y a le sang, il doit chercher, n'est-ce pas, à créer la paix et la sécurité. Alors, quand on utilise l'insécurité, on utilise toutes sortes de subterfuges pour créer la confusion et amener le peuple à se détacher de leur leader naturel, amener la base à se détacher, n'est-ce pas, de leur chef, je crois que ce n'est pas une bonne politique. C'est pas du tout une bonne politique. Je voudrais que ceux qui dirigent le pays actuellement reviennent à des meilleures dispositions d'esprit, aillent droit dans le respect, n'est-ce pas, des accords signés, en particulier l'accord du 31 décembre, et qu'au mois de décembre, qu'on puisse procéder à l'alternance civilisée. Je crois que la guerre prendra fin d'elle-même.
Dismas Kitenge, en conclusion, que faut-il faire? Vous avez commencé à donner des pistes de solutions. Vous avez dit qu'il faut, n'est-ce pas, donner la vraie information, mettre fin à l'utilisation de la force. Mais vous avez aussi évoqué qu'il y a une main noire derrière ces phénomènes. Comment résoudre cet aspect des choses?
Et comme je disais tout à l'heure, c'est une manifestation vraiment de crise de conscience entre le gouverné et le gouvernement. Et pour rétablir cette conscience, il faudrait instaurer vraiment le dialogue. Deuxièmement, il faudrait identifier les revendications. Et parmi les revendications présentées par la famille, le phénomène Anilis Kamina Sampou, il y a certainement cette question-là de revendication à la fois communautaire et politique, c'est-à-dire rétablir l'autorité coutumière dans ses attributs, dans sa fonction, dans son autorité, dans sa juridiction, la respecter. Et je pense aussi que les chefs coutumiers du Kassai l'ont signifié au premier vice-président, au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, voulais-je dire. Une autre piste de solution, c'est que vraiment l'État remplisse son contrat social et politique avec ses citoyens qui passent par la légitimité du pouvoir à tous les niveaux, puisque s'il y a crise, c'est que les gens ne se reconnaissent plus dans ces pouvoirs-là. Alors le moyen de le rétablir, c'est à travers les élections. À travers les élections, on a un pouvoir légitime hein, qui est accepté et reconnu par la population.
Merci.
Mais au-delà de ça, il faut aussi l'état des droits. Moi, je
Merci.
Crois que dans n'importe quelle circonstance, il faut que l'État s'affirme, ça veut dire...
Merci, donc il faut lutter pour le rétablissement d'un état des droits. Isgaël Moutala, votre conclusion, vous savez qu'il y a des populations qui se déplacent pour aller chercher refuge ailleurs. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui au gouvernement pour s'occuper de ces populations déplacées?
Il doit faire tout pour justement... mettre ces populations à l'abri des intempéries et faire en sorte que la paix soit recouvrée dans l'espace Kassai. Mais pour ça, le gouvernement doit être humble, beaucoup d'humilité et beaucoup de tact dans cette crise qu'il a créée.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Mimi Kini qui était à la technique. Merci à Mary Franklin Chaka, Alain Yerong et Kelly Nkouté sous la supervision de Pelé Kipela Mondo. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon suivi de programme sur Radio Kapi.